France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Jusqu'au 13 octobre et partout en France, c'est la fête de la science. Pour fêter ça, on visite un site historique, une station scientifique de référence et un laboratoire d'excellence en route pour l'Observatoire du Puy-de-Dôme. Inauguré en 1876, il est le premier observatoire météorologique de montagne et l'un des plus anciens en Europe, toujours en activité. Un petit laboratoire, mais un fort héritage scientifique, qui a eu une grande importance dans l'histoire des sciences atmosphériques, mais aussi pour les sciences géophysiques. Aujourd'hui, il est l'un des rares sites à conjuguer ces deux domaines. La tête dans les nuages et au cœur de l'unique région volcanique de France métropolitaine, il est à la croisée des disciplines. Minéralogie, volcanologie et météorologie s'y côtoient, on y va et on prend de la hauteur. Observatoire du Puy-de-Dôme, les sciences au sommet. Géraldine Del Campo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistante de direction et chargée de communication. Erwan Thébault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire et directeur de recherche en géophysique au laboratoire magma et volcan de l'OPGC. Et Pierre Coutrisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche au laboratoire de météorologie physique de l'OPGC. Merci. Merci à vous trois de nous accueillir ici. C'est un grand plaisir d'être là. On est à peu près à 1500 mètres d'altitude, on culmine. Est-ce que on va parler évidemment de l'histoire de cet observatoire, de ses missions scientifiques, mais d'abord, Géraldine Del Campo, est-ce que je peux vous demander de nous décrire qu'est-ce qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qu'on voit d'ici, de là-haut?
Alors, pas grand-chose.
On n'a pas de chance sur la météo aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit l'observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. L'idée de la construction date de 1868.
On reviendra évidemment sur l'histoire. Donc là, on a ce chalet auvergnat. Erwan Thébault, là, depuis le sommet de ce Puy-de-Dôme. Bon, on ne voit pas bien, on a un peu une purée de pois sous les yeux, mais normalement, qu'est-ce qu'on a sous le regard?
Alors, sous le regard, on a deux versants. On a un versant qui va être la faille de la Limagne, qui est vraiment au pied du Puy-de-Dôme et qui va s'étendre sur des centaines de kilomètres, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le chalet de l'observatoire pour la spécialisation météorologie est situé sur le Puy-de-Dôme. Et si on va plus regarder vers l'ouest, on va avoir une grande plaine qui va s'étendre jusqu'à l'océan Atlantique.
Alors ici, on a vraiment la tête dans les nuages. Et c'est d'ailleurs un des objets d'étude qui a lieu ici, à Pierre Coutrisse.
Vous avez raison. On a actuellement un nuage autour de nous, et ce qui fait qu'on a un environnement qui est très gris. Et effectivement, la mesure des nuages est une des spécificités de ce site.
Très gris, donc c'est pour ça qu'ici, on ne fait pas du tout d'observation astronomique.
Un jour comme aujourd'hui, ça serait bien difficile parce que les nuages qui diffusent la lumière du soleil et des autres étoiles nous empêcheraient de pouvoir les observer correctement.
Alors Erwan Thébault, pourquoi ici, géographiquement, on peut dire qu'on est dans une situation parfaite, privilégiée pour justement l'étude des nuages?
Alors on est dans une situation parfaite et privilégiée pour l'étude des nuages, mais également pour l'étude des sciences de la Terre, puisqu'il y a une conjonction à la fois géologique et topographique des lieux qui est très favorable aux deux études. Premièrement, on arrive à une altitude où on appelle ça la zone de troposphère libre, donc c'est un endroit où on va considérer qu'on a accès à des éléments atmosphériques qui sont un petit peu... qui suivent des très longues trajectoires. Donc ça permet de faire des mesures sur météorologiques au sens très large. Et puis on est sur un lieu qui est un jour sur trois dans les nuages. Donc ça peut donner lieu à des mesures in situ dans les nuages, à la fois pour des paramètres qu'on connaît de la météorologie, mais aussi pour de la chimie, des aérosols, de la biologie. Et puis sur le plan géologique, en fait, on est face à cette... grande chaîne des puits avec des volcans qu'on appelle monogénétiques. Donc il y a tout un environnement très favorable à faire des liens entre la Terre interne et les sciences de l'atmosphère.
Et volcan monogénétique, qu'est-ce que c'est?
Alors volcan monogénétique, c'est une des spécificités un peu du lieu. C'est qu'on est dans un territoire volcanique qui a donné lieu à des dizaines de centaines de volcans qui ne rentrent en éruption qu'à un seul endroit. Donc une fois qu'ils sont rentrés en éruption, en fait... la volcanologie, le système volcanique va se manifester à un autre endroit. Donc ici, on est dans la partie la plus récente du massif central en termes d'activité volcanique qui date de 11 000 ans. Et donc, on a plein de petits volcans à droite à gauche qui montrent des systèmes éruptifs très différents, explosifs, effusifs, avec des laves très fluides, des laves très visqueuses.
Côté science de l'atmosphère, Pierre Courtris, on est aussi à un endroit où on est la première barrière devant l'Atlantique. Donc ceci, c'est assez intéressant pour étudier tout ce qui est météorologie.
Alors tout à fait, et ça complète en fait la réponse d'Erwan, à savoir que il y a 150 ans, quand on s'est posé la question du meilleur endroit en France pour observer les nuages, c'est effectivement au sommet de la chaîne des Puys qu'on a construit l'observatoire, puisqu'il offre la première barrière orographique, la première barrière montagneuse, à laquelle se confrontent les masses d'air qui généralement viennent de l'ouest, au-dessus de la France, et donc qui se sont chargées d'humidité au-dessus de l'océan, et qui par élévation, détente, refroidissement, viennent former des nuages, comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, au sommet du Puy. On voit des parapentistes au loin. Il y a 150 ans, Géraldine Del Campo, la personne qui a eu l'idée de fabriquer, d'inventer cet observatoire, c'est un bien nommé Émile Alluard.
Oui, c'est Émile Alluard, il était chimiste. Il a eu l'idée de construire cet observatoire parce que voilà, il travaillait un petit peu sur les météores. À l'époque, il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites en plaine, en fait, à basse altitude, mais il n'y avait aucune mesure qui avait été faite en altitude. Et lui, il avait l'idée aussi de comparer. Et grâce à lui, d'ailleurs, avant 1900, il a mis en évidence l'inversion des températures. Grâce à cette comparaison qui avait été prise en altitude et en plaine. Voilà. Donc voilà, il voulait travailler sur ces thématiques-là. Il y a eu aussi toute cette partie magnétisme de la Terre, la sismologie. Il y a eu des sismographes au sommet du Puy-de-Dôme. La première secousse sismique qui a été enregistrée, elle date de 1892, au sommet du Puy-de-Dôme.
Oui, donc en fait, dès la naissance de ce lieu, il y a ces deux sciences qui sont tout de suite présentes, oui. Dès la construction de cet observatoire.
Quasiment, oui. Oui, parce que le directeur qui a suivi Émile Alluard, c'est Bernard Brune, justement, qui lui était géophysicien et qui s'intéressait au magnétisme de la Terre. Il a d'ailleurs mis, lui, en évidence l'inversion du champ magnétique. Et rapidement, les recherches se sont aussi axées sur ces thématiques-là, puisque lui-même était dans cette thématique.
Alors ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, c'est que Émile Alluard, donc il veut étudier les hydrométéores, là où ils prennent naissance, comme il dit, il fait donc construire cet observatoire ici, et on est en face là du temple de Mercure. Ça, c'est justement une découverte archéologique qui est faite au moment de la construction de l'observatoire.
Oui, en fait, quand les premières fondations de la tour ont eu lieu, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que de l'autre côté du bâtiment, il y avait une tour, la tour d'observation, qui a été détruite pour laisser place à l'antenne télévision, d'ailleurs, en 1956. Et lorsqu'ils ont commencé les fondations de la tour, ils ont découvert les vestiges du temple de Mercure. Et c'est là qu'on a remis en évidence ce temple. Donc on s'en est suivi des fouilles, ce qui a d'ailleurs retardé la construction de l'observatoire, puisqu'Émile Alluard a émis l'idée, lui, en 1869, mais la construction a démarré un petit peu plus tard, et il a été inauguré qu'en 1876. Donc voilà, il y a eu un temps, en plus il y a eu la guerre franco-prusse au milieu, donc voilà, il y a eu un temps entre l'idée émise d'Alluard et la construction de l'observatoire.
Le temple de Mercure, Mercure le dieu des volcans, et on va voir comment aujourd'hui c'est toujours un peu un temple des volcans ici, et on va faire la visite ensemble. C'est parti ?
C'est parti.
C'est parti. Là, on vient de passer un couloir, on a entendu qu'il y avait des laboratoires, on va y retourner. Mais d'abord, ici, Géraldine Del Campo, on est dans un espace de vie. Oui. Et c'est quand même donc un lieu qui a été marqué par 150 ans d'histoire, ou presque, et qui a été habité.
Oui, d'ailleurs, en 2021, on a fêté les 150 ans d'observatoire, en se basant sur la date de fondation de l'observatoire, hein, qui est le 29 décembre 1871. Alors oui, un lieu de vie, parce qu'il y a toujours eu un lieu de vie dans cet observatoire, puisqu'à l'époque, on y logeait les gardiens de l'observatoire, qui étaient censés s'occuper des relevés météorologiques toutes les 3 heures. Alors, ça a été rapidement automatisé après, mais au départ, ils étaient censés les relever toutes les 3 heures, le jour comme la nuit. Et d'ailleurs, entre la tour d'observation que vous voyez sur les images,
ouais,
la tour d'observation et le bâtiment d'habitation, il y avait un tunnel. Et ce tunnel permettait aux gardiens d'aller par tous les temps dans la tour d'observation afin de relever les relevés météorologiques. En
voilà,
fait.
Qu'il vente, qu'il neige.
Oui, voilà, c'était ça. C'était pour.
C'était un peu comme des gardiens de phare, finalement.
Eh bien, un petit peu. D'ailleurs, ça a été l'argument d'Émile Alluard lorsqu'il a voulu construire cet observatoire et défendre son projet au niveau local. D'ailleurs, à cette époque-là, on le croyait pas possible, ce projet, parce qu'on n'imaginait pas une construction au sommet du Puy-de-Dôme. Faut rappeler que le Puy-de-Dôme était une montagne sacrée. Au Moyen-Âge, c'était la montagne du feu, c'était le diable, c'était sacré, on ne pouvait pas monter, habiter au sommet du Puy-de-Dôme. Donc voilà, c'était le projet a été très compliqué à mettre en place, mais lui, il avait justement aussi argumenté ça en disant « je mettrai des personnes robustes comme des gardiens de phare ».
Alors oui, Émile Alluard qu'on voit là en photo, une photo également de son hygromètre, l'inventeur de l'hygromètre. L'hygromètre, c'est un instrument qui permet de mesurer le taux d'humidité, c'est ça ?
C'est cela, oui. Alors cet appareil que l'on voit ici en photo, bon, nous l'avons en vrai à l'observatoire sur le campus universitaire des CESO, mais bon, on peut pas il c'est très fragile, on n'a pas pu vous le présenter ici aujourd'hui.
Et donc là, on avait donc des gardiens de phare, et petit à petit, vous dites qu'ils sont devenus petit à petit des aides météorologistes en résidence.
Alors oui, ils sont devenus des aides météorologistes, mais pas que. Parce qu'en fait, ces gardiens, ils venaient avec leur famille, hein, ils vivaient ici au sommet du Puy-de-Dôme avec leur famille.
Pour éviter d'être fous.
Oui, c'était une vie quand même assez compliquée, hein, surtout en hiver. D'ailleurs, un hiver, on a failli perdre un gardien qui s'est perdu dans la tempête. Et grâce à ses chiens, il a réussi à... En fait, son chien est monté à l'observatoire, est venu chercher du secours. En fait, ils l'ont retrouvé dans la neige, à moitié gelé. Et voilà, les conditions, c'est pour dire que les conditions étaient assez rudes, en fait. Donc, ils étaient censés relever la météo, mais lorsque le temple de Mercure a été découvert, ça a suscité beaucoup de curiosité. Il y a eu beaucoup de monde qui est monté au sommet du Puy-de-Dôme, donc ça a aussi un petit peu démarré le tourisme, hein, tout simplement, au sommet du Puy-de-Dôme. Et nos gardiens en ont bien profité, puisqu'à cette époque, en fait, ils se sont lancés dans la vente de cartes postales, d'objets particuliers, ils avaient créé un restaurant. Donc, ils faisaient beaucoup de choses, sauf ce pourquoi ils étaient là. Donc, c'est Bernard Brune, surtout, le directeur qui a suivi, qui a un petit peu remis d'ordre, hein, dans tout ça. Et il a assigné un scientifique au sommet du Puy-de-Dôme, parce qu'au départ, ce n'était pas des scientifiques, justement, on reparle des gardiens. Mais en 1901, c'est Pierre David qui est le premier scientifique qui a vécu au sommet du Puy-de-Dôme. Et d'où l'agrandissement de l'observatoire aussi. Et d'une manière, on a récupéré les instruments qui étaient très humides de la tour et pour loger le scientifique également.
Alors je vois que vous nous avez rapporté aussi des vieux manuscrits, on dirait presque des grimoires. Qu'est-ce que c'est ? C'est écrit à la plume ?
Oui, alors ce sont tout simplement les relevés de température d'époque. Alors celui-ci date de 1874, c'est un des premiers en fait. Donc là aussi, mon collègue vous en parlera, mais... On a aussi cette possibilité, on a en fait la continuité des températures depuis 1874 jusqu'à nos jours en fait.
Un nuage, c'est un amas de gouttelettes d'eau, ou de cristaux de glace, ou encore des deux à la fois, ces amas étant en suspension dans l'air. Ces éléments minuscules, puisque leur diamètre est de l'ordre du centième de millimètre, sont très espacés les uns des autres. Un centimètre cube de nuage ne contient en fait que quelques centaines de ces gouttes microscopiques qui baignent d'ailleurs dans de l'air humide. Au total, un mètre cube de nuage renferme au plus 4 ou 5 grammes d'eau liquide bien sûr. Ce qui malgré tout, pour un simple cumulus de beau temps, vous savez de ces beaux nuages qui flottent dans les ciels de l'été, eh bien ce simple cumulus représente une masse d'eau condensée d'un millier de tonnes. Et si l'on parle de ces gros nuages d'orage noirs et même sous nos latitudes, on arriverait à compter plus de 100 000 tonnes d'eau.
Il y a quand même quelque chose d'un peu mystérieux dans ce que vous venez de me dire. C'est de l'eau liquide, ce n'est pas de la vapeur d'eau, ou c'est de la glace. On pourrait se demander comment, dans ces conditions, une telle masse ne nous tombe pas sur la tête.
Oui, je vois ce que vous pensez. C'est sans doute pour cela que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'était peut-être les nuages dont ils avaient peur.
C'est possible, à moins que ça ne soit les étoiles.
C'est possible aussi. En tout cas, cette suspension tient tout simplement à la faible vitesse de chute de ces sphérules ou de ces cristaux dont les dimensions sont très petites. De 3 centièmes de millimètre par seconde, pour une goutte de 1 micron. Cette vitesse de chute, vous voyez, est extrêmement faible. Elle est de, par exemple, 3 mm par seconde pour une goutte moyenne de 1 cm de millimètre. Cela donne finalement 5 mètres de chute par heure.
Un extrait de l'émission Les choses de la nature sur France Culture en 1968 et la voix de Roger Close, ingénieur de météorologie. Alors ici, il y a une des grandes spécialités, c'est un aspirateur à nuages.
C'est en effet un moyen d'essai qu'on a à disposition ici au chalet de l'Observatoire et qui nous permet de soit collecter l'eau des nuages, soit aspirer le nuage au travers d'une veine de mesure dans laquelle on positionne des instruments pour en mesurer la constitution, c'est-à-dire la concentration, la taille des gouttelettes, leur concentration massique, la forme éventuelle des cristaux lorsqu'on arrive à les capturer dans cette veine de mesure. Et donc ce sont deux aspirateurs à nuages, comme on les appelle, qui sont des moyens très utilisés par la communauté scientifique pour analyser l'eau des nuages.
C'est drôle, puisque là, comme ça, quand vous nous racontez la composition d'un nuage, on comprend qu'un nuage, c'est pas juste de l'eau, c'est bien plus que ça.
Alors, exactement. Un nuage, en fait, vous aurez autant de réponses de ce qu'est un nuage que de scientifiques auxquels vous poserez la question. Alors, nous avons des collègues chimistes qui vous expliqueront les réactions, qui verront le nuage comme un réacteur chimique et qui s'intéresseront aux réactions chimiques et aux transformations des espèces chimiques à l'intérieur de l'eau nuageuse, en solution aqueuse, avec l'énergie du soleil, la photosynthèse. Vous aurez des collègues physiciens comme moi qui vous expliqueront qu'un nuage, c'est une distribution de gouttelettes ou de cristaux de glace, ou éventuellement des deux, ce qu'on appelle les nuages de phase mixte, qui sont en suspension dans cette atmosphère, dans cette troposphère, et qui, par leur présence, modulent à la fois l'énergie qu'on reçoit du soleil, mais également l'énergie qui est réémise par la Terre vers l'espace, et sont en ça des acteurs clés du système climatique terrestre.
Percutrice, en fait, on comprend là avec cet aspirateur à nuages aussi qu'il est question d'analyser, d'examiner ce qu'on appelle le plancton aérien, c'est ça ?
Alors, les planctons, mais pas que. En réalité, pour se former, une gouttelette de nuage va avoir besoin de deux ingrédients essentiels. D'une part, de l'humidité en excès dans l'air, c'est ce qui est typiquement mesuré par l'hygromètre. Et d'autre part, un noyau de condensation sur lequel l'humidité va venir se condenser. Et la condensation, c'est ce qui fait la physique des nuages. Et ces noyaux de condensation peuvent être tout objet en suspension, qu'on appelle communément des aérosols, qui peuvent être des pollens, des spores de champignons, des sels marins, et tout ce qui va être arraché à la crête des vagues par les vents qui soufflent sur les océans, également des poussières désertiques. Voilà. Et toutes ces petites particules, nanoparticules ou microparticules qu'on retrouve dans l'atmosphère servent de noyau de condensation et servent de support à la formation des gouttelettes nuageuses.
Donc ici, on a cette surveillance de la composition atmosphérique, de ce qui fait des nuages. Et d'ailleurs, l'Observatoire a fait cette étude qui a été très médiatisée, une étude qui montre que, justement, dans les nuages, on trouve tout ce dont vous venez de décrire, mais aussi des grosses traces de pesticides.
Donc effectivement, dans cet observatoire, nous faisons la surveillance de l'atmosphère et de sa composition physico-chimique. Et à ce titre, nous faisons partie d'un réseau d'observation mondiale qui s'appelle le réseau Global Atmospheric Watch et qui nous contraint ou nous invite à réaliser en continu un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, nous avons des collègues chimistes, dont Angelica Bianco, qui est la première autrice de cette étude dont vous me parlez, qui est parue très très récemment, exactement, et qui effectivement a connu un bel écho médiatique, et qui s'intéresse à la présence de traces de pesticides dans l'eau des nuages, au même titre que toutes les autres particules qu'elle est capable d'analyser avec ses techniques analytiques.
Voilà, dans cette étude, on voit qu'il y a 32 substances, dont même certaines qui sont interdites en France depuis longtemps. Ça, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça nous apprend du système hydrique ?
Alors, ce que ça nous apprend du système hydrique, on pourra y revenir, mais d'abord, ce que ça nous apprend, c'est qu'autour de la Terre, il n'y a qu'une seule atmosphère. Et ce qui est émis quelque part va se retrouver à circuler autour de la Terre et être mesuré, observé ailleurs. D'où l'importance de ces observatoires comme l'Observatoire du Puy-de-Dôme, qui en continu mesurent la chimie, la physique des nuages, la physique de l'atmosphère, pardon, et des gaz, et également de tout ce qui est radionucléide.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et on poursuit notre visite de l'Observatoire du Puy-de-Dôme avec Géraldine Del Campo, Erwan Thébault et Pierre Coutrisse. On vient de parler de l'histoire du lieu, près de 150 ans d'histoire qui se poursuit aujourd'hui dans ce chalet d'observation atmosphérique.
Eh bien, on va aller voir cet aspirateur à nuages. C'est une des spécialités de la station. On y va. Alors, Pierre Coudris, je vais vous demander d'être nos yeux. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un bel engin. Est-ce qu'on peut le décrire déjà ensemble?
Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir ici, dans la salle de la soufflerie, qui est, dans ce qu'on appelle communément les aspirateurs à nuages, le plus grand de nos exemplaires d'aspirateurs à nuages. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est une entrée d'air qui est orientée vers l'ouest afin de capter les flux, les vents et les masses d'air qui nous arrivent la plupart du temps de l'ouest. Et ensuite, cet air, il passe au travers d'un convergent et il se retrouve ici dans cette veine de mesure qui est de grande dimension et qui nous permet de placer et de l'instrumentation et des objets d'étude que nous souhaitons observer en environnement nuageux. C'est un moyen d'essai qui est dédié à la mesure en environnement nuageux. Et ensuite, là-bas, à l'aval, il y a un grand moteur électrique qui vient en fait entraîner tout cet air et le recracher à l'extérieur du chalet, une fois qu'il a passé la veine.
Alors j'ai lu en préparant cette émission qu'il y avait eu Serge Godard avec ses expériences de filtre qui prenait des araignées, qui les plaçait dans des tubes à essai pour qu'elles fassent leur toile. Et ensuite, il se baladait avec son tube et il passait comme ça dans les nuages pour que les gouttelettes soient prises au piège par les fils d'araignées. C'est un peu un des ancêtres de cette technique de filtre.
Alors c'est à la fois un des ancêtres de la technique de prélèvement et à la fois un précurseur de ce qui au CNRS s'appelle la low-tech, c'est-à-dire l'envie de temps en temps de revenir à des choses bien moins techniques d'un point de vue instrumental et expérimental. Et effectivement, avec l'aide d'araignées et de leur toile, on pouvait certainement fabriquer là de très bons filtres sans faire appel à des technologies et des matériaux coûteux en énergie.
Donc là, ici, une fois que le nuage est aspiré, comment le nuage est-il ensuite traité? Quelles sont les analyses qui sont faites? Elles sont faites ici, in situ?
Oui. Donc, dans cette soufflerie, la majeure partie des travaux que nous menons sont des travaux autour du givrage. Le givrage, c'est l'accrétion sur des surfaces qui peuvent être des branches d'arbres, des fils électriques, des ailes d'avion, des entrées d'air à moteur, de petites gouttelettes en suspension dans l'air, de gouttelettes de nuages qui sont en réalité liquides à température négative et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir venir accréter à la surface d'un obstacle pour faire leur transition de phase et passer de liquide à solide. Donc l'avantage de cette soufflerie, c'est qu'en hiver, lorsqu'ici la température est négative et que, comme nous le disions tout à l'heure, il y a un fort taux d'ennuagement, il nous suffit d'ouvrir la vanne de la soufflerie, d'aspirer le nuage à l'intérieur et de simuler un composant aéronautique qui serait exposé à bord d'un avion aux conditions givrantes en nuages.
On peut le faire fonctionner. Les volets s'ouvrent sur un magnifique paysage.
Donc cette soufflerie, c'est l'aboutissement de presque 100 ans de recherche autour du givrage. Et à l'occasion d'une résidence d'artiste, il y a maintenant 2 ans, la résidence où nous avons ici accueilli Sabine Mirles, qui est une plasticienne, cette collaboration entre science et art nous a permis de revisiter notre histoire scientifique et de s'apercevoir que presque 100 ans maintenant auparavant, ici au sommet du Puy-de-Dôme, des ingénieurs s'intéressaient à la problématique du givrage sur les aéronefs. Donc on parle ici de campagnes qui ont été menées à l'hiver 1936-1937. Donc ce sont des travaux qui sont pionniers en France, sans doute les premiers à collecter des données expérimentales pour comprendre comment se forme le givrage et comment s'en prémunir quand on est dans un avion. Alors à cette époque-là, on ne travaillait pas dans le confort d'une salle à l'intérieur d'un chalet avec l'air qui est aspiré à l'intérieur d'une veine de mesure, mais on avait en réalité un moteur et une hélice d'avion montés sur l'affût d'un canon. On travaillait en plein air à l'extérieur. Ces scientifiques-là avaient monté des ailes au sommet du Puy-de-Dôme et à l'aide de l'hélice de l'avion, venaient comme ça générer un flux autour d'ailes ou d'appendices aéronautiques qu'ils avaient à tester, et de venir avec des réglés d'alu, les techniques de mesure étaient alors assez rudimentaires, venir mesurer comme ça la quantité de givre qui se déposait sur les ailes d'avion. Donc on voit là vraiment l'évolution entre cette activité pionnière en France et les techniques modernes dont nous disposons maintenant pour continuer et prolonger ces travaux.
Oui, je disais aussi que ici, c'est une des stations qui est parmi les plus actives dans ses relevés à l'échelle mondiale, c'est ça ?
Oui. Et donc cette activité-là, ces paramètres que nous mesurons, ils sont mesurés 24 heures sur 24 à l'aide de plusieurs dizaines d'instruments différents, tous spécifiques à un type de mesure, hein, mesure de gaz, mesure d'aérosol, mesure d'enneigement, pression, température, tous les paramètres météorologiques classiques.
En termes d'instrumentation, on a aussi ici accès au deuxième instrument national, la plateforme de mesure aéroportée. Là, on est aussi sur de la mesure in situ grâce à des sondes embarquées en avion.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un aspect très très intéressant de nos métiers. Et là encore, on a bénéficié d'une belle évolution technique, puisqu'en fait, les premières mesures nuages étaient faites au sommet des montagnes, où les reliefs accrochaient les nuages, et les scientifiques, à l'aide de boîtes à pétri, venaient collecter les cristaux de glace et les gouttelettes, et plus ou moins les analyser de manière manuelle avec des microscopes. Et avec le développement de l'avion et l'accès à l'avion pour les scientifiques de l'atmosphère, le développement des techniques laser dans les années 60, nous disposons maintenant d'instruments optoélectroniques, d'instruments de photonique, que nous installons sous l'aile d'avion de recherche pour aller voler directement dans les nuages, tout autour du globe, de l'Arctique jusqu'au tropique, et réaliser des mesures, ce qu'on dit in situ, c'est-à-dire dans le nuage, des propriétés des hydrométéores.
Vous avez dit boîte de pétri, il me semble en avoir vu une par là-bas dans un des labos. Est-ce qu'on peut continuer la visite ?
On va maintenant faire une petite halte dans cette salle qui sert, donc la salle de biologie et chimie des nuages, qui sert en réalité à conditionner les échantillons de nuages qui sont prélevés ici in situ à l'aide des aspirateurs à nuages. Et en fait, cette eau nuageuse, pour être sûr qu'entre le moment où on la collecte et le moment où on l'analyse en bas dans les laboratoires du campus de Clermont-Ferrand, il n'y a pas trop d'altération, nous avons ici tout le matériel nécessaire pour conditionner nos prélèvements.
Donc là, on est dans de la biologie et de la chimie pure et dure.
Exactement.
Mais c'est étonnant parce que là, en l'espace de quelques salles, on se rend compte de toute la diversité des sciences atmosphériques. C'est-à-dire que quand on parle généralement météo, j'imagine que dans l'esprit de la plupart des gens, météorologie, oui voilà, on pense juste météo et basta. Mais en fait, c'est bien plus vaste que ça.
C'est bien plus vaste que ça. Et c'est très bien justement d'apporter un éclairage sur cette science parce qu'effectivement, quand on dit météo, on pense prévision météorologique, le temps qu'il fera demain, ce qui est un champ disciplinaire extrêmement important, y compris sur le plan opérationnel. Mais scientifiquement parlant, il existe un champ d'activité qui porte sur l'observation et la caractérisation de l'atmosphère. Et c'est vraiment cette spécialité-là que nous avons développée ici à l'Observatoire. Et l'observation, elle porte, donc on a dit, sur la partie physique, la partie chimique, la partie biologique de tout ce qui nous entoure, dans cette masse d'air qui nous entoure.
Et là, on comprend aussi, avec l'image que j'ai en face de moi, pourquoi il ne faut pas manger de la neige.
Exactement. Donc là, ce que nous avons sous les yeux, c'est une boîte de pétri dans laquelle nous avons mis en culture de l'eau nuageuse, histoire de voir quelle type de composés, de colonies, de bactéries, de champignons, de levures, mettre en évidence toute cette vie qui existe à l'intérieur de l'eau nuageuse. Et effectivement, parmi ces bactéries, alors en voyant cette boîte de pétri et ses couleurs jaunâtres, on a tous sauf envie de boire cette eau-là. Et en réalité, la plupart des bactéries qui sont contenues, par exemple, dans la neige, dans les hydrométéores, qui ensuite précipitent sous forme de neige, sont certainement inoffensifs pour le système gastrique, mais il y en a d'autres qui sont un peu pathogènes et qui peuvent provoquer des troubles digestifs. Voilà. D'où le conseil généralement donné de ne pas manger la neige.
Et on poursuit la visite par le toit terrasse.
Nuage du groupe 3 à la plage sur France Culture, car nous avons la tête dans les nuages pour cette fête de la science. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus en Auvergne, à l'observatoire du Puy-de-Dôme de l'OPGC, l'observatoire de physique du globe, rattaché au CNRS et à l'université Clermont-Auvergne. On fait la visite avec Géraldine Del Campo, assistante de direction et chargée de communication, Erwan Thébault, directeur de l'observatoire de recherche en géophysique au laboratoire Magma et Volcan de l'OPGC, et Pierre Coutris, ingénieur de recherche au laboratoire de météorologie physique de l'OPGC. Là-haut, tout en haut du puits, on contemple toute la chaîne des volcans vers le sud et on voit d'un seul regard l'urbanisation, le paysage, une faille géologique. Nous avons aussi sous les yeux une mer de nuages. Pierre Coutris, on vient d'arriver sur le toit terrasse. Il y a derrière nous tout un tas d'instruments, c'est des instruments classiques de météorologie.
Voilà, donc ici on est vraiment dans un des endroits dans lequel on réalise des observations avec différents types d'instruments, des plus simples comme un anémomètre, une girouette pour nous donner la vitesse, la direction du vent, capteur de température, de pression, d'humidité, et puis les instruments plus sophistiqués qui nous donnent la nébulosité, la présence ou non de nuages, et puis surtout ce bruit qu'on entend là. Ça c'est le bruit des pompes qui viennent aspirer l'air extérieur et l'emmener à l'étage inférieur, à l'endroit où sont nos analyseurs. Ce sont des instruments qui sont onéreux et qu'on ne peut pas laisser comme ça exposés aux quatre vents. Et donc l'air est prélevé sur le toit terrasse et emmené dessous pour y mener toutes les analyses physico-chimiques caractérisées par la constitution de l'atmosphère.
Il y a une découverte récente, quelque chose que vous avez débusqué ici, qui vous a particulièrement touché ou marqué?
À titre individuel, et ça vient à mon champ disciplinaire, je suis toujours admiratif de ces premiers travaux sur le givre, qui sont vraiment un emblème de ce lieu, puisque quand on a cherché en France l'endroit dans lequel on devait et pouvait mener ses premières études sur le givre, c'est ici, là où nous sommes, au sommet du Puy-de-Dôme, qu'elles ont été menées. Et peut-être de rappeler qu'en réalité, au-delà de l'aspect historique de cette activité, nous avons récemment, avec les instruments de la plateforme de mesure aéroportée, dans le cadre d'une collaboration internationale qui invitait à travailler ensemble les industriels de l'aéronautique, les autorités de certification et les scientifiques, les physiciens des nuages. Nous avons récemment réalisé plus de 250 heures de mesure dans des systèmes très particuliers, tropicaux, donc bien loin d'ici, de Clermont-Ferrand, mais toujours dans cette même esprit de caractériser le givrage, pour réaliser des mesures qui permettent ensuite aux autorités de certification de définir des enveloppes de vol à laquelle les industriels se conforment pour s'assurer que les avions sont aptes à voler en toutes conditions nuageuses.
Ben nous, on va atterrir et on va se remettre à l'intérieur pour parler un peu plus précisément des géosciences et de toute l'importance des sciences et du volcanisme et de la volcanologie qui a lieu ici. On continue.
Côté géosciences, c'est donc ici que l'inversion du champ magnétique terrestre a été découverte par l'un des directeurs de l'observatoire. Il est parti de l'observation des laves et s'est rendu compte que le sens d'écoulement est inversé. Une découverte pionnière avant même la découverte de la tectonique des plaques et qui a permis de modéliser les premiers mouvements continentaux. Mais comment se caractérise le volcanisme de la région ?
8 jours après la catastrophe de Nyos au Cameroun, Haroun Taziev parle et SOS Environnement s'inquiète. Il faut dire que cette fois-ci, eh bien, ce sont les volcans d'Auvergne qui sont sous le feu des projecteurs. Guylaine, ça devient plus sérieux.
Oui, Haroun Taziev nous fait très peur. Hier, en rentrant du Cameroun, il a déclaré que ce type de catastrophe n'était pas impossible en France. Il a même précisé que ce genre de drame pourrait se produire dans le Puy-de-Dôme ou dans le Massif central. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter ? Alain Chabot, répondez-nous.
La chaîne des puits en Auvergne, plus de 80 volcans à 1000 mètres d'altitude. Il y a 25 millions d'années, ils entraient en activité. La dernière éruption daterait d'il y a à peine 1000 ans. Aujourd'hui, heureusement, ils sont en sommeil, une léthargie surveillée par des scientifiques et leurs instruments. Ce qui n'empêche pas l'association SOS Environnement de prendre les dernières déclarations d'Haroun Taziev très au sérieux, même si le vulcanologue français disait la même chose lorsqu'il était encore secrétaire d'État au risque majeur.
Dans combien de temps, c'est difficile à dire.
Phalange. Ah, c'est totalement impossible à dire. C'est entre la semaine prochaine et dans 1000 ans. Quoi.
Que demande SOS Environnement ? D'abord le retour de Taziev au secrétariat d'État, et puis surtout la création d'une cellule de surveillance des volcans d'Auvergne qui serait placée sous la double responsabilité du gouvernement et du conseil régional d'Auvergne.
le volcanologue Haroun Taziev dans le JT de France 3 Région Auvergne en 1986. Mais alors pourquoi la chaîne des puits reste-t-elle un lieu très important pour la recherche en volcanologie ? Voilà, on vient d'entendre déjà tout au long de cette visite toute l'importance de l'histoire de ce site pour la météorologie. C'est aussi un site qui est très important, Erwan Debbouze, pour les sciences de la Terre, la géophysique et la volcanologie ici.
Alors oui, c'est intéressant parce que l'observatoire est souvent associé à ce site très emblématique qui a été porté à bout de bras, qui vient accueillir des scientifiques du monde entier sur la météorologie. Mais l'observatoire en lui-même est une structure fédérative qui, depuis son origine, inclut des sciences de l'atmosphère, sachant qu'à l'époque, ça n'existait pas réellement, et des sciences de la Terre interne. Donc nous avons en fait l'observatoire, c'est deux laboratoires. Un laboratoire spécialisé dans la magmatologie, dans la volcanologie, et qui est très disciplinaire sur les sciences de la Terre. Le laboratoire de météorologie physique, et le tout est environné par une unité de techniciens et d'ingénieurs, bien sûr, qui nous aident à déployer cette instrumentation, à l'installer, à la maintenir. Et nous avons aussi une école, une formation, un parcours de formation qui à partir de toutes ces disciplines qui nous permet d'enseigner un peu les métiers très spécifiques de cette recherche. Donc un observatoire, c'est vraiment aborder toutes les facettes de la recherche. Et c'est une structure observatoire au sens du CNRS, donc c'est un observatoire des sciences de l'univers. Ça signifie également que nous avons des réseaux atmosphériques et terres internes qui sont branchés à d'autres réseaux en France ou à l'étranger, avec un très fort réseau de solidarité. Donc là, on vient du sommet du Jarret. Il y a quand même quelques instruments dont nous avons la charge de la maintenance, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est vraiment un réseau de solidarité pour couvrir le plus précisément possible différents paramètres.
Côté volcanologie, là on est avec des volcans a priori au repos. Qu'est-ce qui est intéressant ? Enfin, ils ne sont pas dénués d'intérêt, j'imagine, ces volcans au repos. Qu'est-ce qu'on peut étudier ici sur place ?
Alors, ils ne sont pas du tout dénués d'intérêt, puisque on va avoir des aspects très géologiques, lecture des paysages, avec des gens qui ont arpenté la région pour lire un peu les paysages et reconstruire en subsurface à partir d'indices visibles en surface. Donc évidemment, là, il y a des volcans, donc il y a de la roche volcanique à partir desquelles on peut travailler. On peut travailler en termes de structure, on peut travailler avec les mêmes champs disciplinaires que pour la météorologie, c'est pour ça qu'on a des liens très très forts, avec de la chimie, de la température à haute, enfin haute pression température, avec des instruments typiques qui vont nous expliquer comment ces roches se sont formées, comment elles sont remontées. On va travailler avec différentes compositions qui vont nous dire à quelle profondeur elles ont pu se charger en tel ou tel minéraux, etc. Et ces connaissances fondamentales dans un endroit qui est calme sont très très utiles également pour tout ce qui est volcanisme actif.
Volcanisme actif, comment justement on l'étudie ça depuis l'OPGC ?
Alors l'OPGC est responsable, co-responsable avec l'Institut de physique du globe de Paris, qui a vraiment la charge de la surveillance des volcans actifs d'outre-mer français, d'un certain nombre de cibles également d'activité en outre-mer et à l'étranger. Donc nous avons des personnels qui se déploient à la fois pour la surveillance volcanique en temps calme et également pour la surveillance volcanique après la phase volcanique pour voir ce qui s'est produit, pour améliorer la connaissance. Mais cette connaissance, le problème d'un volcan actif, c'est qu'il est actif et que entre le moment où, avant son éruption, avant sa manifestation, il change entre l'avant et l'après. Donc on a besoin d'avoir un corpus documentaire sur plein de mécanismes volcaniques et l'observatoire, grâce à sa situation, a créé au cours du temps un très très, très gros corpus scientifique.
Et là, parmi les découvertes et ce corpus scientifique, et parmi justement ces volcans en activité, il y a ces travaux sur le Piton de la Fournaise, avec cette étude parue en 2022 qui montre l'existence d'un phénomène de glissement de flanc lent et profond. Comment ça se met en évidence, ce type de phénomène ?
Alors, je ne suis pas le spécialiste de cette discipline, et donc c'est toujours des travaux qui sont faits en collaboration avec l'Institut de physique du globe de Paris, qui a la responsabilité et la charge opérationnelle de ces volcans. Dans le cas précis que vous mentionnez, c'est à la fois des mesures in situ, donc c'est-à-dire sur site, où des gens ont fait des mesures de déformation de l'édifice sur site. La connaissance géologique de l'île de la Réunion avec des systèmes de failles qui ont été référencés au long de l'histoire. Et puis sur cette étude très particulière, ça a fait intervenir une technique d'interférométrie radar. C'est-à-dire que nous avons des satellites en permanence qui survolent les cibles choisies régulièrement et qui voient en fait les déformations depuis l'espace. Donc en faisant des différences sur des séries temporelles suffisamment longues, on commence à voir des plans de glissement.
Voilà, avec notamment cette fameuse mise en réseau des observations et le temps long des observations et des mesures. Autre actualité, autre découverte, ce sont ces séismes très profonds qui ont été détectés à 30 km sous le Puy-de-Dôme.
Oui, c'est une découverte inédite dans le cadre d'un projet qui est piloté par nos collègues de Grenoble, à Ister. Donc pour les aspects sismologiques, ils pourraient vous en parler mieux que nous. Mais en revanche, ça nous permet de préciser que l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand a été le premier observatoire à déployer la première station sismique. Donc c'est déjà, nous, on a une très longue tradition de mesures sismiques avec l'entretien d'un réseau au niveau du national. Et pour tout ce qui va être la partie détection et travaux de la sismologie fondamentale, dans ce projet-là, c'est plutôt nos collègues de Grenoble. Donc, dans le cadre d'un projet de l'Agence nationale de la recherche, ils ont installé en 2024-2025 un premier réseau qui a permis de mettre, donc qui a densifié le réseau actuel du territoire, qui a mis en évidence des sismes de très faible magnitude, donc qui ne sont pas ressentis par la population, et qui ont des caractéristiques, ce qu'on appelle des longues périodes, ça veut dire qui sont en fait en profondeur. Alors, c'est des mécanismes très intéressants, c'est des séismes très intéressants, puisqu'ils sont souvent rencontrés en contexte volcanique. Ceci dit, il est important de préciser que ces séismes ont été détectés à 30 km, c'est-à-dire à la frontière entre le manteau supérieur et la croûte, et que ça ne met pas du tout en évidence l'existence d'une éventuelle chambre magmatique, telle qu'on pourrait la comprendre ou la connaître, qui générerait une éruption.
Alors ça veut dire que les volcans d'Auvergne ne sont peut-être pas si éteints que ça ?
Alors pour l'instant, c'est très contradictoire, puisque déjà l'histoire nous montre qu'elle s'est déroulée sur plusieurs millions d'années, avec des dernières éruptions il y a 6700 ans, là dans le lac Pavin. La zone dans laquelle on se trouve, c'est 11 000 ans, donc c'est assez court au niveau des temps géologiques. Et puis on a plein de manifestations, on a des thermes, on a de la géothermie, donc on est quand même dans un milieu qui est particulier. Donc l'origine de ces séismes, en fait, elle a deux hypothèses contradictoires. La première, c'est soit le refroidissement, une forme de cristallisation, donc c'est-à-dire la fin d'un volcanisme, qui vient rétracter un petit peu la croûte et créer ces petits séismes, soit à l'inverse, une réalimentation par la base, au niveau de la base de la croûte, d'un magma frais ou de gaz frais. Mais pour l'instant, encore une fois, on ne parle absolument pas de chambre magmatique.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et à l'occasion de la fête de la science, on s'est rendu tout en haut du Puy-de-Dôme, pour visiter son observatoire avec Géraldine Del Campo, Erwan Thébault et Pierre Coutris. Toujours à propos de ces sujets qui lient volcanisme et atmosphère, il y a une des études aussi qui est réalisée ici, c'est tout ce qui est étude justement de dispersion des panaches volcaniques. C'est, on est pile poil à la croisée de ces deux sciences quand on parle de panaches volcaniques. Peut-être avec vous d'abord, Erwan Thébault.
Alors, on a effectivement des partage d'expertise, des partages disciplinaires qui pourraient être mis en œuvre pour cette transversalité. Donc sur le plan instrumental, par exemple, l'atmosphère a fait beaucoup de déploiements de radars pour faire de la télédétection. La communauté volcanologique s'en est emparée pour les ajuster, les adapter à la transmission de l'information à travers les panaches volcaniques. Et on s'aperçoit que finalement, depuis quelques années, ces outils qui ont été développés spécifiquement pour la volcanologie reviennent un peu dans les deux études atmosphériques, notamment en domaine océanique.
Pierre Coutris, on a quand même une alliance de compétences en météorologie, minéralogie et volcano ici.
Oui, au travers du panache des volcans, et là le lien entre les sciences de l'atmosphère, un des liens possibles entre les sciences de l'atmosphère et la Terre interne, puisque les volcans sont des sources d'émissions, de gaz, de particules, qui se retrouvent à jouer un rôle ensuite dans l'atmosphère terrestre. Et c'est certainement là un objet d'étude qui lie les deux communautés Terre interne et atmosphère, avec des projets récents à La Palma, où des équipes d'atmosphériciens et de volcanologues sont partis mesurer ce qui est relargué par les volcans en éruption.
Peut-être préciser aussi un champ disciplinaire un petit peu nouveau, qui s'appelle la sismo-volcano ou la sismologie atmosphérique, où de nombreuses études commencent à s'intéresser à l'explosion d'un volcan et la transmission du son, des infrasons, dans l'atmosphère. Donc en fait, on a besoin des connaissances atmosphériques pour relocaliser l'origine de cette explosion.
Il y a une des choses dont on n'a pas parlé encore aussi. On a parlé d'un des instruments nationaux qui est hébergé ici. On n'a pas parlé du second, la presse multi-enclume. Ça, c'est... D'ailleurs, on peut déjà dire en quoi ça consiste.
C'est un instrument très lourd. Donc c'est une presse qui va essayer de reproduire les conditions de température et de pression dans les intérieurs planétaires en général. Donc là, on l'applique à la Terre. Et c'est un instrument aussi qu'on peut utiliser directement, soit sur des échantillons naturels, pour mesurer un peu des propriétés très particulières, soit de la fracturation, soit de la conductivité électrique. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Bien sûr, des gaz, des aérosols également. Et c'est un instrument qu'on peut utiliser sur des amalgames qu'on aurait nous-mêmes constitués pour voir comment ces amalgames, à partir de certaines températures et pressions, se transforment en d'autres minéraux et comment ils cristallisent. Donc ça, c'est un instrument mis à la disposition de tous les collègues qui travaillent sur le sujet et qui va servir aussi bien à la Terre interne que à la planétologie.
Erwan Thébault, pour vous, c'est quelque chose d'important de travailler, de faire de la recherche contemporaine, actuelle, ici, dans ce lieu de patrimoine et d'héritage scientifique ?
Tout à fait. Je suis très sensible à l'héritage culturel du site. Très très sensible aussi à cette structure d'observatoire qui nous stimule dans des activités transverses avec une grosse dimension de génération de la donnée au bénéfice de la recherche et du monde socio-économique. Et puis cette dimension quand même très disciplinaire fondamentale qu'on arrive à faire perdurer et à partir desquelles on fait quand même de la recherche de pointe.
Et vous, Pierre Coutrisse, est-ce que vous êtes vous aussi soucieux de l'inscription de ce site dans une histoire et dans un territoire ?
Oui, c'est vrai que travailler ici, c'est un peu être un privilégié. Un privilégié dû par les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire la science. Et puis l'histoire dont dans laquelle on s'inscrit, qui est une très belle histoire et qui, j'espère, durera encore longtemps.
Géraldine Del Campo, est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui... Comment vous regardez ça aussi, cet héritage historique, ce lieu de patrimoine? Comment vous l'observez?
Eh bien, ce que je souhaite, moi, surtout, c'est de le faire perdurer, que la mémoire ne se perde pas. Et à ce titre, justement, on a attaqué un ouvrage avec Erwan et une collègue, Nathalie Vidal, qui est, elle, responsable du département d'histoire des sciences et techniques du musée Lecoq à Clermont-Ferrand. Donc, tous les trois, on a commencé l'écriture d'un livre sur l'histoire de l'observatoire, justement, pour garder cette mémoire.
Super, ben on a hâte de... on a hâte d'en faire la découverte et de le lire. Merci, merci à vous trois pour la visite. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.
Depuis 2020, il est possible de visiter l'Observatoire du Puy-de-Dôme grâce aux visites insolites organisées par le CNRS. Et tout de suite, on regagne les studios de Radio France avec Alexandra Delbo. En Chine, la découverte d'un crâne d'un million d'années bouscule les paléanthropologues. C'est la chronique avec science.
Comment un crâne pourrait-il reculer l'émergence de notre espèce? C'est l'un des deux crânes découverts dans les années 90 dans la province de Hebei, au centre de la Chine. Ils ont été attribués à Homo erectus, un ancêtre donc de Sapiens, mais aussi de Néandertal en Europe et de Denisova en Asie. Ces deux crânes sont nommés Jungsian 1 et 2 et datent d'un million d'années environ. C'est une période charnière pour la reconstruction de l'histoire évolutive du genre Homo. Le problème, c'est qu'il y a peu de fossiles de cette époque. On est donc un petit peu dans le flou. Une expression anglophone le décrit bien, c'est le muddle in the middle, le fouillis au cœur du Pléistocène. Antoine Balzo est paléoanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il est l'auteur de l'ouvrage illustré « Dans la tête de nos ancêtres » paru chez Humensis.
Depuis quelques années, à la fois on trouve de nouveaux spécimens, mais ça nous a peut-être pas facilité la tâche non plus, parce que l'image que l'on avait, c'était une séparation de Néandertal, de Sapiens, il y avait Homo erectus avant, on racontait une histoire relativement simple. Et puis la génétique nous a identifié un nouveau groupe, les Denisoviens, Et puis des fossiles, au fil du temps, ont été découverts qui ne rentraient pas vraiment dans les boîtes que l'on connaissait, dont ces crânes de Jungsian d'ailleurs, qui sont un petit peu particuliers pour leur grande taille et leur forme un peu étonnante. Et en fait, ce flou que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est lié à tout ça. La découverte de nouveaux spécimens un peu différents, la volonté de certains chercheurs d'utiliser des noms, mais pas les mêmes, ce qui fait que si chaque paléanthropologue propose pour un fossile un peu étrange un nom différent, on se retrouve avec cette vision qui devient complètement floue de on ne sait plus bien comment les classer, on ne sait plus bien comment ils sont reliés les uns aux autres, et peut-être que là, on fait un petit pas vers une clarification de ça, une meilleure définition des différents groupes humains qui ont vécu ensemble quand Homo sapiens était là, et puis qui se sont développés au cours du temps depuis plus d'un million d'années.
Tout l'enjeu est de replacer correctement ces fossiles chinois dans l'arbre généalogique des humains. Car s'ils sont bien conservés, ils ont été retrouvés fortement déformés, extrêmement aplatis, et évidemment ce n'est pas leur forme d'origine. Cette nouvelle étude parue dans Science a justement tenté de redonner à Jungsian 2 sa géométrie initiale en le reconstruisant virtuellement de l'intérieur et de l'extérieur. Et pour redonner vie à ce crâne aplati depuis un million d'années, les scientifiques ont eu recours à plusieurs technologies de pointe. D'abord la tomodensitométrie, c'est un scanner, ensuite de la photogrammétrie pour numériser le fossile et obtenir une reconstruction 3D. Viennent ensuite les analyses du crâne, en premier lieu une analyse morphométrique de sa forme et de ses proportions par rapport à un vaste panel d'autres crânes. C'est ce qui permet de dire qu'un fossile ressemble à un autre. Et enfin, une analyse cladistique, c'est-à-dire une grande matrice intégrant des dizaines de caractères morphologiques et anatomiques afin de calculer les liens de parenté les plus plausibles avec d'autres vestiges. Et résultat, Jungsian 2 présente une voûte longue et basse, un front fuyant et un bourrelet susorbitaire épais, assez caractéristique d'Homo erectus, mais avec un volume crânien plus élevé, un visage large, une région occipitale élargie. Ce crâne présente donc des traits mosaïques, à la fois archaïques et avancés. Et si ce fossile d'un million d'années présente des traits plus avancés, semblables à ceux de Sapiens, cela pourrait donc reculer la date d'émergence de notre espèce, qui serait donc plus ancienne que 300 000 ans, mais ces conclusions sont encore discutables.
Des caractères primitifs et dérivés, il faut expliquer par rapport à quoi pour que ça ait un sens. Par exemple, les humains d'aujourd'hui, nous avons tous des mains à 5 doigts. 5 doigts, c'est un caractère relativement primitif. Et ben pour l'évolution humaine, la difficulté, c'est un peu la même chose. Dire qu'il y a des caractères primitifs sur un crâne, ce sont des choses qui sont partagées par d'autres, donc ça n'a pas beaucoup de signification. Ce qui va être important, ce sont les différences. Et dans le cas de Jungsian et de tous ces fossiles un petit peu particuliers, ce qui nous manque encore, c'est une description précise, claire, de ce qui les réunit et ce qui les différencie de tous les autres fossiles humains. Les travaux que font ce groupe de chercheurs depuis quelques années semblent indiquer que la séparation denisovien au sens large, sapiens-néandertal, serait avec plutôt les denisoviens proches de Sapiens et Néandertal qui serait un groupe apparenté à ces deux-là, alors que jusque-là, on avait une vision un peu inverse où c'était Sapiens et Néandertal, les deux groupes les plus proches.
Cette étude a le mérite d'être la plus complète menée à ce jour sur les crânes de Jungsian, mais selon ce chercheur, qui n'a pas participé à ses travaux, elle n'apporte pas de preuves définitives. Ce genre de débat est assez courant en réalité en paléoanthropologie, une discipline où les interprétations restent fragiles et les biais sont nombreux. Et cette histoire n'est pas close. En 2022, un troisième crâne a été mis au jour sur le même site, le Jungsian 3. Il est plus fragmentaire, mais beaucoup moins aplati, ce qui laisse espérer des données un petit peu plus précise. La prochaine étape sera d'appliquer ces méthodes à un autre fossile spectaculaire, l'homme de Harbin, attribué à une nouvelle espèce nommée Homo longi. Ces travaux replacent l'Asie au cœur de l'évolution du genre humain et ce continent pourrait donc avoir joué un rôle bien plus important qu'on ne le pensait dans l'histoire de notre espèce.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, Antoine Bidet. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.